VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Bion, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. Les négociations prévues aujourd'hui au Soudan entre leaders du mouvement de protestation et généraux au pouvoir n'auront pas lieu. Les négociateurs de la contestation étant restés dans la ville d'Al-Obeid où 5 lycéens ont été tués lors d'une manifestation contre les pénuries de pain et de carburant. Les manifestants accusent les redoutés paramilitaires et des forces de soutien rapide, RSF, dirigés par le numéro 2 du conseil militaire à la tête du pays, Mohamed Hamdam Daglo, d'avoir tué les 5 lycéens. Par ailleurs, l'ONU a réclamé aujourd'hui une enquête avant de nouvelles discussions. Le chef du conseil militaire au pouvoir au Soudan a condamné la tuerie. Ce qui s'est passé à Al-Obeid est triste. Tuer des civils pacifiques est un crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni, a déclaré le général Abdel Fattah Al-Burhan, cité par la télévision. En République démocratique du Congo, un accord a été trouvé pour la composition du gouvernement. Le Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila et CAB pour le changement de son successeur Félix Tshisekedi l'ont annoncé tard dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Attendu depuis 6 mois, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi sera composé de 65 membres, en majorité issus de la plateforme politique de M. Kabila. Le point tout de suite avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Hormis le Premier ministre, le futur gouvernement de la République démocratique du Congo comprendra 48 ministres et 17 vice-ministres, dont 23 pour cas pour les changements du président Félix Tshisekedi et 42 pour le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui, majoritaire au Parlement, se taille également la part du lion dans ce gouvernement. Ce résultat est le fruit des longues discussions entre les deux familles politiques qui, au lendemain de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle, ont décidé de former une coalition pour gérer le pays ensemble durant ce quinquennat. Cet accord prévoit des principes devant guider le Premier ministre à former son gouvernement qu'il soumettra ensuite à la nomination du président de la République, a dit lors de la conférence de presse Nehemi Mulanya, le coordonnateur du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Un comité de suivi paritaire veillera au respect des dispositions prises par le négociateur, a-t-il conclu. Nommé depuis le 20 mai dernier, le Premier ministre Sylvestre Ilunga était présent à la conférence de presse mais ne s'est pas exprimé. Aucune annonce non plus n'a été faite sur la date de la publication du futur gouvernement. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, les ex-présidents ivoiriens Henri Konabedi et Laurent Gbagbo, qui attend en Belgique une décision de la Cour pénale internationale, se sont rencontrés pour la première fois depuis 10 ans hier. C'est lors de cet entretien, Henri Konabedi s'est particulièrement réjoui de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d'Ivoire, selon un communiqué commun signé de leurs deux parties. Dans le cadre de l'organisation d'élections justes, transparentes et équitables en 2020, les deux hommes ont appelé le gouvernement à procéder à une réforme profonde de la commission électorale indépendante, la CEI, afin qu'elle puisse contribuer significativement à la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, leader du mouvement chiite, incarcéré depuis décembre 2015, ne s'est pas présenté hier au tribunal pour des raisons de santé. Son procès a été une nouvelle fois ajourné à la semaine prochaine. Irénée Armanoubo.
À sa dernière audience, le chef du mouvement islamique du Nigeria ne pouvait même pas monter les marches de la cour, a déclaré son avocat Femi Falana, indiquant que le juge était informé de son absence et avait donné son accord à un report du procès. Les avocats d'Ibrahim Zakzaki demandent sa libération sous caution pour qu'il puisse aller se faire soigner en Inde. Pas question selon le procureur Dari Bayro, qui estime que le Nigeria a des hôpitaux où il peut se faire soigner. La cour jugera lundi prochain s'il peut partir ou être soigné dans les hôpitaux de ce pays, a-t-il précisé. Nous sommes mécontents de savoir que le procès a été ajourné compte tenu de la santé fragile du cheikh, a confié Ibrahim Moussa, porte-parole du mouvement. Les manifestations vont continuer car nous ne pouvons pas croiser les bras pendant que notre chef est en train de mourir. La présidence nigériane a annoncé dimanche l'interdiction totale pour terrorisme et activités illégales du mouvement chiite radical après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja.
Les vols ont dû être suspendus hier et des passagers débarqués en urgence dans l'aéroport de la capitale libyenne Tripoli après la chute de roquettes à proximité. L'ONU s'inquiétant de la fréquence croissante de ces attaques ayant failli toucher des avions civils. Le trafic a pu reprendre aujourd'hui, ont indiqué des sources anonymes au sein du seul aéroport opérationnel à Tripoli.
Nos infos sur voaafrique.com.
Il est 7h05 minutes à Washington, aux États-Unis. Deuxième débat aujourd'hui et demain à Détroit pour les primaires du Parti démocrate. Joe Biden, qui mène dans les sondages, a promis d'être plus agressif cette fois-ci face à la sénatrice Kamala Harris, qui doit confirmer son statut de présidentiable après avoir malmené l'ancien vice-président américain en juin dernier. Un avant-goût avec Abdourahmane Dia.
En baisse, mais toujours en tête dans les sondages, l'ancien vice-président Joe Biden a, comme d'autres candidats, rendu visite à des organisations militantes noires. Les critiques du président Trump, que certains qualifient de raciste contre quatre parlementaires, sont toujours au cœur du débat public. Mais les démocrates sont eux-mêmes confrontés à un débat racial soulevé lors du dernier débat par la sénatrice de Californie Kamala Harris, et on devrait s'attendre à d'autres confrontations lors du prochain. Aaron Cale de l'Université du Michigan.
Pour beaucoup de candidats, c'est peut-être leur dernière chance pour marquer les esprits. Et pour cela, ils doivent se frotter aux favoris, être agressifs et les attaquer.
Joe Biden est également critiqué pour son vote en faveur d'une loi de 1994 sur la criminalité. Selon certains, cette loi est à l'origine de l'incarcération massive de personnes de couleur, mais les électeurs ont aussi d'autres sujets en tête. Michael Trogott de l'Université du Michigan.
Je pense qu'ils doivent se focaliser sur des sujets comme la santé, l'éducation ou l'emploi.
Le sénateur de Vermont, Bernie Sanders, crédité de la deuxième place dans la majorité des sondages, a du mal à maintenir sa position de leader de l'aile progressiste du parti face à Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, qui est de plus en plus populaire au sein de la gauche. Mais Bernie Sanders n'entend pas lui céder un pouce.
Nous avons besoin d'une campagne présidentielle qui dynamise et excite le peuple américain.
Le débat télévisé offre l'opportunité aux candidats de s'adresser directement aux électeurs, qui auront ensuite l'opportunité de battre campagne à travers le pays.
Oui, le Sénat américain a échoué lundi à réunir le nombre de voix nécessaires pour outrepasser le veto de Donald Trump, que le président avait donc été contraint d'imposer afin de procéder à d'importantes ventes d'armes américaines à l'Arabie Saoudite et ses alliés. Le président avait pris la décision en main de contourner le Congrès en utilisant une procédure d'urgence afin d'imposer ses ventes controversées pour 8,1 milliards de dollars au total, arguant de la menace iranienne. En Afghanistan, deux soldats américains ont été tués hier alors que Washington engage des négociations directes avec les talibans pour mettre fin à la guerre. Eric Manira Kiza.
Les deux militaires, dont l'identité n'a pas été révélée, ont été tués en action d'après le communiqué du commandement de l'OTAN, sans plus de précision. Ces décès portent à 12 le nombre de soldats américains tués au combat depuis le début de l'année en Afghanistan. Près de 2300 militaires américains sont morts et plus de 20 000 blessés depuis fin 2001, lorsqu'une coalition menée par les États-Unis a chassé les talibans du pouvoir. Cependant, le nombre des morts dans les rangs américains a baissé depuis que la mission de l'OTAN a cessé d'être une mission de combat en 2014. Le président Donald Trump veut engager le retrait des troupes américaines avant la présidentielle de novembre 2020. Parallèlement, les États-Unis ont engagé depuis un an un dialogue direct inédit avec les talibans. Les négociations ont permis de faire de vrais progrès, a assuré le secrétaire d'État Mike Pompeo. Le négociateur américain Zalmay Khalilzad est à Kaboul et doit se rendre dans les prochains jours à Doha, au Qatar, pour de nouvelles discussions avec les talibans.
Et à propos de l'Afghanistan, les civils continuent de mourir et d'être blessés à un rythme inacceptable, malgré les discussions visant à mettre fin à des décennies de guerre, a dénoncé aujourd'hui la mission de l'ONU en Afghanistan, la MANUA. Malgré une baisse de 27% du nombre de victimes au premier semestre 2019 par rapport aux six premiers mois de 2018, 1366 civils ont tout de même été tués et 2446 blessés, a fait savoir la MANUA dans un rapport semestriel. Le mal fait aux civils est choquant et inacceptable, a souligné la mission mission de l'ONU qui qualifie d'insuffisants les efforts annoncés par les deux parties pour limiter les pertes civiles. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 54 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.